Le masque et la plume. Bonsoir et bonne année à toutes et à tous. C'est vrai qu'elle ne peut pas être pire que la précédente. Bienvenue, toujours sans public, au théâtre de l'Alliance française. Avec ma chère Olivia de Lamberterie, de Elle, Arnaud Vivian, de Transfuge, de Regard, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine et Jean-Claude Raspien-Jas de La Croix. Pour parler de 5 parmi les 493 nouveaux romans, chiffre sérieux établi par Livre Hebdo, de cette opulente rentrée littéraire de janvier. La vengeance m'appartient de Marine Diaye, l'architecture de Marien de Falvar, les yeux de Milos de Patrick Grainville, Serge de Yasmina Reza et Inside Story de Martine Hémis dans Le Courrier de la Semaine. À propos de Royan de Marine Diaye, Jeannine Bailly nous dit qu'elle a pu voir filmer au Théâtre de la Ville Nicole Garcia interpréter Royan, la professeure de français, et ce fut un moment magique car, ajoute Françoise Lamontagne, Royan a été diffusé un soir en visio sur le site du Théâtre de la Ville et Nicole Garcia, seule en scène et sans public, était formidable. C'était, précise même Catel Tison d'Emma, en direct le 10 novembre à 21h et ce fut un moment exceptionnel. Quant à Frédéric qui comparait la prose de Marine Diaye à la musique sérielle de Philippe Glass, sic, il se fait taper sur les doigts par Théotime Langlois. Philippe Glass n'a jamais écrit, Frédéric, de musique sérielle comme Boulez. Il appartient au courant de la musique répétitive, ce que confirme Fabrice Hamchin, qui se définit comme homme de lettres et du néon. Pourriez-vous dire au sémillant Becbédé, ancien publicitaire glabre devenu barbu par paresse, j'aime beaucoup la formule,
oui,
que Phil Glass ne compose pas de la musique sérielle mais répétitive et minimaliste? C'est Schoenberg, Frédéric, qui a inventé la musique sérielle et le dodécaphonisme.
Très bien, donc Marie Ndiaye est répétitive. On va pouvoir le vérifier encore une fois.
Sinon, Paul-François Ségret au masque et la plume d'avoir remis Jean Tellet à sa place. Tellet prétend connaître Baudelaire au point de donner la taille de Jeanne Duval, mais confond pied et syllabe, présente Mon cœur mis à nu comme une œuvre poétique et de la nécessité de battre les femmes comme un alexandrin comptant laborieusement les syllabes sans arriver évidemment à son compte. Anke Feuchter remercie son cher masque d'avoir recommandé, je crois que c'était Jean-Claude, de Christian Esteb, La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP chez Finitude. Je serais passé à côté de ce roman sans le masque. Merci beaucoup et je trouve précieux ce soutien apporté à un éditeur dont j'ignorais l'existence. Il se trouve que cet éditeur est à Bordeaux. Et j'ajoute pour ma part que vous trouverez chez Finitude des merveilles signées Marc Bernard, Jean Forton, Paul Gaden, Raymond Guérin ou Georges Perros. Enfin, Catherine Guyon de Lorient remercie Jean-Claude Raspien-Jas d'avoir réveillé en elle, à propos du roman de Serge Goncourt, L'envie d'antésite. Ni une, ni deux, mais voilà à quatre pattes pour exhumer les deux petits flacons de mon placard. Cette boisson réglissée est une madeleine, un souvenir enchanté, une saveur inimitable qui à elle seule est le goût des vacances. Et j'ai reçu plein de courriels dans ce sens, y compris du Québec, au Canada, où Lionel Berthoud nous écrit « Cette fabuleuse boisson à saveur de réglisse, l'antésite, est encore prisée dans le sud de la France, particulièrement chez les travailleurs manuels et au cours des mois les plus chauds. Cette invention d'un pharmacien de l'Isère a plus de 120 ans d'existence. PS, je vous aime », nous dit Lionel Berthoud. Donc l'antésite, que nous étions certains ignorer, évidemment, grâce à...
Heureusement que j'en ai parlé.
Ah oui, puis heureusement que Serge Goncourt, surtout.
Oui.
on a parlé...
Oui, enfin, vous pouvez rire, vous ne l'aviez pas noté.
Comment ça?
Dans le livre de Serge Goncourt, vous n'aviez pas noté.
C'est la raison pour laquelle
moi,
je
ne
la
connaissais pas.
Aux auditeurs, oui. Mais après, on va dire que c'est une question de classe, tu vois. Voilà, allez, Inside Story, c'est l'autobiographie romancée du Britannique Martin Hemis, traduite de l'anglais par Bernard Turch chez Calman Levy. Et j'ai pensé qu'il fallait bien, pour ce début d'année, 700 pages à nos critiques du Masque et la Plume, pour parler de cet auteur, l'auteur, vous savez, de Monet Monet, qui a aujourd'hui 71 ans, qui vit à New York, comme tout Britannique qui se respecte, et qui donc raconte, mais en la réinventant, son existence. Il se souvient notamment de sa jeunesse londonienne, de son amour fou pour la très belle et indépendante Phoebe Phelps, Il rend gloire à son père, le romancier et poète Kingsley Amis, à ses amis disparus, en premier lieu Saul Bellow, bien sûr, qu'Alzheimer a englouti, mais aussi l'écrivain Christopher Hitchens. Évidemment, ça, on s'en doute, Amis n'a pas que des Amis, puisque fidèle à sa légende, il cogne sur ses ennemis. Alors, la France en prend plein la gueule, hein, la France, évidemment, en particulier, qui a collaboré. Je cite Amis, « La fange est la grande tradition française ». Faut le faire, hein. Roman Polanski, Graham Greene, il savait à peine tenir un stylo, sa surface verbale est tout bonnement insipide. Notre cher Le Clésio National, ou encore les écrivains français de l'autofiction. Bref, Martin Amis se ressemble dans ce gros livre. Est-ce que vous l'avez lu avec intérêt, passion, exaspération, Olivia?
Ah ben avec tout ça, parce que c'est comme une sorte d'immense chaudron biographique, littéraire, sociétal, sentimental, dans lequel il mélange tout et il mélange sa vie aux livres, aux évolutions de société. Il aperçoit même Donald Trump à Long Island avec des Miss. J'ai trouvé que c'était assez fascinant. Il donne lui-même la méthode de lecture. Il dit « il faut le lire par rafale ». En remettant la lecture de certains passages à plus tard, avec des pauses, je plains les pauvres spécialistes, nous donc, qui devrons le lire d'une traite et contre la montre. Mais je l'ai lu par rafale, ce qui m'a fascinée, ce sont les histoires avec les femmes. Les femmes sont omniprésentes, ses ex d'ailleurs, qu'il revoit absolument tout le temps. Avec
sans qu'on arrive à savoir si ce qui est vrai est pas vrai, hein, toujours.
Ah ben ça, moi je suis pas juge d'instruction, je ne peux absolument pas démêler le vrai du faux. Ce que je peux dire, c'est que ses rapports avec les femmes sont sans doute imprégnés de son rapport avec son père, hein, qui a une phrase absolument dingue. Il lui dit « Lors d'une conversation avec une femme, ne cite même pas le nom d'une autre femme, à moins que ce soit pour lui apprendre son décès, après une agonie très douloureuse. » Je trouve que le moment qui mêle le plus, justement, les tremblements du monde et ses tremblements personnels, c'est le 11 septembre, où il est à New York. Il y a des conversations d'ailleurs passionnantes avec Salman Rushdie, et où le 12 septembre, il y a une femme qui frappe à sa porte. Il pense que c'est une de ses ex-fibes. En fait, c'est sa nièce, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et qui lui donne une lettre dans laquelle elle lui raconte que le père de Martin Amis a tenté de la séduire, l'a séduite, mais que ce n'est pas grave parce qu'il lui a expliqué qu'il n'était pas son père. Non mais il y a quand même des trucs comme ça. Moi c'est un livre que j'ai dévoré bouche bée.
Je vois que tu as laissé de côté un peu tous les passages polémiques sur la France, sur les écrivains.
Non, moi ce qui m'a intéressé c'est toute l'époque londonienne, avec Anna Wintour, avec Tina Brown.
Ah, oui,
c'est fascinant. Ouais. Ce qui m'a émue aux larmes, c'est les scènes avec Iris Murdoch, qui est atteinte, elle aussi, de la maladie d'Alzheimer.
Les pages sur Saul Bellow sont très belles. Hein.
Très belles
et douloureuses.
La manière dont il la raconte, où elle lui dit « je suis dans le noir, je n'entends plus de bruit », c'est une sorte de festival de trucs dingues. Mais honnêtement, c'est captivant.
Mais on peut aussi, parce que moi j'ai fait une lecture un peu différente, j'ai pris des passages aussi, puis je suis revenu en arrière.
Par rafale, c'est pas, comme,
mais
comme
pas,
il le dit.
Mais pas forcément dans l'ordre. Et c'est aussi...
Les passages avec sa belle-mère sont quand même
je vois que Olivier est intéressable. Frédéric.
Il dit aussi, il y a un autre mode d'emploi à un endroit, il dit « Si vous avez lu mes romans, vous savez déjà absolument tout de moi, de sorte que ce livre n'est qu'un supplément. » Un supplément de 800 pages. Hein. Et il est vrai qu'il avait déjà écrit sur sa vie un livre assez fabuleux qui s'appelle Expérience et que je trouvais bien supérieur. J'ai l'impression que là, il a collé ensemble pas mal de morceaux de bravoure, mais que ça ne prend pas forcément en tant que livre. Et d'ailleurs, il en est conscient puisqu'il dit lucidement de piocher au hasard. Alors oui, les rencontres avec Saul Bellow, c'est ce que j'ai préféré, notamment l'anecdote de la fille couverte de médailles qui est dévorée par un loup au moment où Saul Bellow a reçu le Nobel. Il dit finalement, on attire un peu trop l'attention des malveillants. Il regarde ensemble le Pirate des Caraïbes aussi.
Ah,
ça, c'est
beau,
plutôt
ça.
À la fin de sa vie. Ça, c'est ce que je préfère. Et puis, sinon, alors il y a ce scoop sur Kingsley Amis ne serait pas son père, ce serait Philip Larkin. On ne va pas tout raconter, mais c'est...
Philip Larkin, qui est un des plus grands poètes anglais de la deuxième moitié du XXe siècle. Quand même.
Mais c'est un peu malhonnête et un petit peu spectaculaire, quoi, de dire « c'est peut-être pas mon père » et en même temps, c'est lui qui l'a élevé, et c'est peut-être faux aussi. Donc là, il y a un côté un petit peu racoleur.
D'autant qu'il lui exprime son amour aussi. Hein, c'est pas...
Bien sûr, bien sûr.
Oui, moi, j'aime bien qu'il lui exprime son amour et que finalement, ça soit un peu ambivalent.
Et enfin, il y a un moment, alors, donc quelqu'un lui dit, mais ces romans, c'est du blabla, ou il y a une catégorie de romans, c'est le roman blabla. Et je me demande si, malheureusement pour lui, il n'a pas écrit ça aussi.
Alors, Arnaud ?
J'adore Martin Amis, mais je pense qu'il y a trois Martin Amis. Il y a le Martin Amis romancier, qui effectivement a tendance au roman blabla. Peut-être qu'il est là, d'une certaine manière, il est là. Il y a le Martin Amis, que je dirais journaliste littéraire. C'est pas le même que critique littéraire. Il y a aussi cette part de critique littéraire que moi, c'est ce que je préfère chez Martin Amis. C'est quand il est critique littéraire, il y a quand même beaucoup d'endroits où il parle de littérature, d'une manière un peu théorique, qui sont passionnants sur ce qu'est devenu le roman aujourd'hui, etc. Et c'est là où il a cette théorie sur le roman blabla, qui est le journaliste littéraire, celui qui parle des écrivains, et notamment là, avec Saul Bellow, c'est juste magnifique, là, effectivement, la mort par Alzheimer de Saul Bellow, c'est un grand moment de littérature, comme Martin Amis le raconte. Moi, j'adore ce côté fourre-tout, hein, mais je suis absolument pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que les critiques sont à plaindre, qui devront le lire contre la montre, parce que je pense que si vous ne le lisez pas contre la montre, vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire que justement, il faut se donner une volonté de faire, parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est la prolifération des notes en bas de page,
oui, absolument,
qui donne un aspect encore plus touffu à ce livre qui fait donc quand même 800 pages.
Il y a un côté pliade dedans un peu.
Si on rajoute les notes en bas de page, donc qui sont dans un caractère plus petit, on doit bien arriver à largement 2 millions ou 3 millions de mots, mais en même temps, ces notes en bas de page, elles sont juste passionnantes. Mmh. Donc on est là un petit peu comme un... Moi, j'ai eu le sentiment d'être dans... Vous avez dans un dépôt-vente, où vous savez que vous allez faire une affaire quelque part, mais il va vraiment falloir fouiller. Et effectivement, comme vous commencez à mettre les mains dans le cambouis ou les yeux dans le cambouis, vous trouvez des splendeurs dans les notes en bas de page. À un moment, il raconte ce qui serait devenu la coccinelle, la Volkswagen coccinelle, si elle avait suivi le même développement que les puces électroniques. Et donc, il raconte que la coccinelle volerait à 400 000 km/h et qu'elle coûterait 50 centimes si elle avait suivi le même développement que les puces électroniques. C'est ce genre de détails comme ça qui sont absolument...
Celui-là m'avait échappé.
Fabuleux.
Jean-Claude.
Dépôt-vente, c'est pas l'expression que j'aurais conservée. Moi, c'était plutôt, je sais pas comment on dit vide-grenier en Angleterre. Mm-hmm. En revanche.
Foire à tout, on dit en Normandie.
Oui, alors, mais par contre, j'aime bien une tradition qui a lieu au Québec. J'aime bien le Québec et j'aime bien ce qui s'y passe. Et ils ont ce qu'on appelle là-bas les ventes de garage. C'est-à-dire que les gens se débarrassent d'un maximum de choses certains jours et évidemment convient les passants à venir prendre ce qu'ils veulent. Même pour moi, ce livre-là...
Un flacon d'anthésite, par exemple.
Oui, non, mais ce livre-là, pour moi, c'est la vente de garage de Martin Amis. Voilà. C'est-à-dire il se débarrasse de tout ce qu'il traîne, de tout ce qu'il a déjà dit. Donc, il va le redire autrement. Il va mettre des notes en bas de page. C'est complètement décousu. C'est assez inégal, oui, il y a des choses absolument magnifiques, il y a des choses qui sont pénibles à lire. Bon, moi j'aime assez ces différentes histoires avec les différentes femmes, moi je suis assez sensible à ce qui lui est arrivé avec Feub, comme tu dis. Si, évidemment, la déchéance mentale de Saul Bellow m'a beaucoup touché, l'accompagnement du cancer de son copain rival aussi, Hitch, m'a beaucoup touché. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit à un moment qu'à l'âge qu'il a, le temps est lancé comme un train fou, et que ce train... À l'âge qu'il a grillé toutes les gares. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a vente de garage et puis aussi je suis pressé, vite, vite, il faut que je me débarrasse des choses. Néanmoins, je pense qu'il y a un tiers du livre qui est un peu en trop pour notre
côté. Oui, je le rappelle, c'est quand même 700 pages.
Oui.
Et c'est titré Inside Story. C'est donc les mémoires romancées de Martin Amis. Et c'est chez Calman Lévy, Serge, le nouveau roman chez Flammarion, de la dramaturge et romancière Yasmina Reza. Un livre qui raconte au moment où les parents s'en vont. L'histoire d'une fratrie, Serge, évidemment, le rôle titre, l'aîné, Anne, alias Nana, et Jean Le Cadet est narrateur, à l'exception de Nana, en couple très solide avec Ramos. Et les deux frères ont des vies sentimentalement compliquées, le mot est faible. Les trois ont des enfants qu'on voit grandir pendant que leurs grands-parents sont frappés par la maladie. Chez les Popper, des juifs non pratiquants d'origine viennoise, on s'aime autant qu'on se chamaille, même, et ça c'est une scène incroyable du livre, lors d'une visite groupée dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, qui donne lieu à une scène surréaliste, puisque Nana et Serge s'insultent, on peut dire vraiment pour des peccadilles, au pied d'un wagon plombé. Et je trouve que c'est, à cette scène-là, en tout cas moi, je reconnais bien Yasmina Reza qui traite souvent de thèmes tragiques, mais avec une légèreté qui n'est jamais coupable, évidemment, mais qui est toujours absolument stupéfiante et qui fait, à mon avis, son art, un roman choral transgénérationnel. Et donc, ici, il s'appelle Serge, c'est parce que c'est le centre pour le meilleur et pour le pire de ce livre Serge, que pour ma part, j'ai évidemment beaucoup aimé, même s'il m'a beaucoup surpris. Jean-Claude.
Oui, alors d'abord ça démarre très très bien, c'est-à-dire que les premières pages sont vraiment marrantes, c'est très très drôle.
Ah, mais tout au long du livre, on rit.
Oui, alors tout au bout du livre, on rit jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le rire, ou de fatigue, ou d'épuisement, ou je ne sais pas, est moins franc qu'au début du livre. Moi, ce que j'ai vu dans ce livre, c'est plutôt une description de l'enfermement et de la dépendance des liens familiaux, c'est-à-dire ce que c'est aussi qu'une fratrie, la damnation d'être scellé pour toujours à des frères, et on est enchaîné pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. En gros, ce qu'il explique, c'est un peu l'enfer de ces liens-là, mais ils sont irremplaçables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire l'économie. Tu as parlé de cette scène à Auschwitz.
Il y en a deux, d'ailleurs, parce qu'il y a d'abord une des enfants, une des filles, qui va avec son prof, un prof d'histoire géo, qui, de nervosité, à Auschwitz, en tout cas, a une crise de nerfs et de rire. Et puis après, il y a la scène avec Serge et sa sœur Nana et Jean, qui vont à Birkenau.
En fait, ça occupe plus que la moitié du livre, cette scène Auschwitz.
C'est toute la seconde partie.
Voilà, mais sur l'ensemble du livre, c'est à peu près une grosse moitié du livre. Et moi, je la trouve très courageuse de décrire ça comme une visite à Auschwitz, comme un peu une visite à un centre, dans un parc d'attractions. Je la trouve courageuse de faire ça, en ayant bien expliqué pourquoi cette famille y va. Et une fois qu'ils sont sur place, ils sont pris eux-mêmes par ce phénomène de parc
d'attractions.
D'ailleurs,
elle évoque à ce moment-là, à la fois, je trouve ça très, très incroyable, elle évoque à la fois Claude Lanzmann, évidemment, pour Shoah, mais aussi Lara Fabian. Et je trouve que le mariage des deux est à l'image de Yasmina Reza.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est la... On voit qu'elle sait écrire pour le théâtre, et c'est un livre bourré de dialogues crépitants, de répliques vraiment cinglantes, enfin, où tous les contes sont soldés à coups de dialogues, des griefs mal digérés, des petites rancunes, enfin, la mémoire à cornis. Et je trouve qu'elle s'engouffre là-dedans, c'est très très bien, ça s'engueule, ça se rabiboche, enfin. Et d'ailleurs, je trouve que plus que l'histoire, c'est cette composition-là, de dialogue et de scène, qui donne l'énergie, le rythme du livre. Mais je trouve que ça glisse du rire du début, on va du plus grave au plus sérieux, et puis on arrive, il faut finir. Voilà. Et je trouve que vers la fin, il faut finir.
Selon toi.
Oui.
Frédéric?
Moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve ça, moi aussi. Tout ce que vous avez dit est juste, et j'insisterai sur l'humour très noir, parce que j'ai visité Auschwitz, et c'est effectivement ce que j'ai ressenti quand j'y étais, c'est-à-dire de ne pas arriver à être assez triste, de ne pas être à la hauteur de l'endroit, de la tragédie, et d'être frustré de ne pas être assez ému. Et c'est exactement le sujet de ce livre. Alors, avec les Poppers, hein, c'est marrant, ils s'appellent les Poppers, au camp d'extermination, je veux dire, le décalage est total. Il y a des touristes qui font des selfies, il y a tout ce ridicule de la visite obligatoire.
Et avant, il y a la visite du village d'Auschwitz, qui est très fleurie. Et là, elle dit quand même, et quand on connaît l'histoire, la propre histoire, la généalogie de Yasmina Reza, elle dit, c'est plein de fleurs et d'arbres, le juif est un bon engrais.
Oui, non, mais il y a des phrases... Elle dit, le Portobello avait été recommandé comme le meilleur restaurant d'Auschwitz. Vous voyez, c'est ce genre de phrase totalement inadmissible, mais bon, là elle est un peu malhonnête parce que le village s'appelle Oswiecim. En réalité, c'est le meilleur restaurant d'Oswiecim, pas d'Auschwitz. Mais enfin bon, pour l'écriture, elle change le lieu. Mais il y a toujours des surprises, et effectivement, par moments, ça pourrait être, un film de Bakri et Jaoui au camp de Birkenau, et puis à d'autres moments, on se hisse vers Singer, vers Albert Cohen, vers même J.D. Salinger, The Glass Family, la famille Glass, et ce genre de choses, pour moi, c'est très très
avec
rare,
des moments de folie. Rare. Il y a presque un dialogue dans une rue, dans un caniveau, entre un corbeau qui est en train de bouffer un pigeon et qui s'adresse au narrateur, à Jean. Olivia.
Alors moi, je suis totalement dingue de ce livre. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est pour moi comme du mercure. J'ai l'impression que l'intelligence circule partout, que la construction du livre est quand même d'une virtuosité folle, parce qu'elle arrive à multiplier les angles de vue, les scènes, les personnages. Pour moi, c'est beaucoup un livre sur le vieillissement, ce moment de non-retour, où tout d'un coup, ça vous saute à la gueule, vous pouvez plus rien faire. Les vieux meurent et les enfants grandissent, parce que vous avez
Et le dernier mot de la mère qui va mourir, c'est LCI, parce qu'elle elle réclamait la chaîne.
Le dernier mot de la mère qui ne supporte pas d'avoir un lit médicalisé. Le personnage de Maurice. Et tout d'un coup, elle a une expression ou une phrase qui vous cloue pour parler de Maurice. Elle dit « Il boit son petit champagne ». C'est tellement beau. Il y a un personnage, je trouve, d'enfant dans le livre qui est magnifique, qui est le petit garçon Luc, qui est un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et il y a une scène où Luc, c'est l'enfant d'une ex-compagne d'un des frères. Et sa mère le regarde à un spectacle à l'école, et il fait tout à contre-temps. Il fait le lapin quand les autres font déjà le cerf. Et là, Yasmina Reza, elle a cette phrase, pour parler de la mère, elle dit « Elle ne rit pas pour de vrai, mais la voix du rire est la plus commode. » Eh bien, il me semble que tout le livre est là. Mmh. On ne rit pas pour de vrai, mais finalement, on est tellement désespéré que la voix du rire est la plus commode. Et puis, je trouve que c'est aussi un livre sur la fratrie. Qu'est-ce que c'est que la fratrie quand on vieillit ? Eh ben finalement, on a beau être vieux, on reste toujours l'enfant du milieu, on reste toujours l'enfant qu'on a été et on garde son rang. Moi, je trouve que c'est un livre absolument...
Je suis d'accord avec toi, et tu dis qu'il est très bien fabriqué, fait.
Ah oui !
Mais
on ne voit pas comment c'est fait.
Voilà, ce que je vais te dire, je ne sais pas comment c'est fait.
C'est pour ça que je dis que c'est comme une mercure, c'est que ça circule
ça reste
avec
un mystère.
Une fluidité
tout d'un coup, tu as une phrase très drôle sur...
Et puis, voilà, moi j'ai eu des fous rires.
Tu as trois lignes sur le... Il paraît qu'on bouffe tous en une semaine en plastique l'équivalent d'une
carte bancaire.
Une carte bancaire. C'est en deux lignes, ça n'a rien à faire là.
Un des frères qui raconte qu'il a des aventures, mais que parfois il n'y arrive plus, il dit le mieux, c'est de s'endormir, et puis là, la fille part doucement... Et après, on se lève et on se dit « Oh, c'est une chic fille, peut-être même qu'elle a fait un peu de repassage. » Extraordinaire.
Bon ben, vous avez tout dit, vous me laissez les restes, là, un peu, mais...
Oh, il n'y a pas de reste, tout est beau.
Non, tout est beau. C'est une immense... Je crois que c'est une immense styliste, en fait. C'est effectivement... D'abord, toutes les phrases sont belles. Oui. C'est absolument incroyable. Pour moi, si vous voulez, elle a une espèce de génie qui vient de Raymond Queneau, qui vient aussi un peu de Pérec. Il y a, par exemple, dans la fabrication, au début, ça commence, ils vont à la piscine, justement, avec le petit Luc.
Avec le slip en lycra.
Oui, mais ils vont à Bègue. Alors moi, je regarde, c'est où Bègue ? Et Bègue, c'est une petite commune dans l'Allier, donc ça ne correspond pas du tout. Et à la fin du roman, ils reviennent à Bègue, et à un moment, elle a cette phrase, il y a donc bien un endroit qui s'appelle Bègue, écrit Yasmina Reza. Et donc, il y a toute une construction comme ça, entre le vrai et le faux. Parce que je me dis, mais à quoi ça sert pourquoi imaginer c'est une ville de banlieue, pourquoi ne pas lui donner son vrai nom ? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'il s'agit de montrer que Auschwitz est un vrai lieu, pour le coup. Qu'on ne peut pas changer le nom d'Auschwitz, mais on peut changer le nom d'une ville de banlieue parisienne. Il y a toute une, comme ça, une intelligence à l'œuvre, dans le texte, qui est totalement invisible. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est du grand, grand travail, du grand tricotage. Et puis, à un moment, des beautés. À un moment, elle parle d'un squelette velouté. C'est juste
oui, absolument.
Magnifique.
Pour parler de la mort de son
oui.
du père ouais. des enfants. Et on parle souvent d'ailleurs des deux arts où elle excelle, hein, le théâtre et le roman. Mais je trouve qu'elle les a jamais mieux rassemblés que dans ce livre qui s'appelle Serge et qu'on vous conseille tous de lire pour rire, mais aussi évidemment parfois pour pleurer. C'est Serge donc de Yasmina Reza et c'est chez Flammarion. Il y a quelques semaines, au masque, malgré les réticences de Frédéric Becbédé, on parlait de Royan, ce monologue écrit par Marine Diaye pour Nicole Garcia. Et voici que la romancière de Trois femmes puissantes, prix Goncourt 2009, signe « La vengeance m'appartient », titre d'ailleurs très chabrolien, chez Gallimard. Alors, un certain Gilles Principeau, ça pourrait être un nom d'ailleurs d'un personnage de Yasmina Reza, se présente le 5 janvier 2019 au cabinet de Maître Suzanne. Il voudrait que cette avocate, elle a 42 ans, tout récemment installée dans la bourgeoise ville de Bordeaux, prenne la défense de sa femme Marlene, qui dit avoir noyé dans la baignoire leurs trois jeunes enfants. Maître Suzanne, qui est d'origine modeste, c'est important pour qu'on comprenne le roman, est surprise qu'on fasse appel à elle pour une affaire d'une importance grande, enfin, dont parlent tous les journaux. Surprise aussi parce qu'il lui semble avoir connu ce Gilles Principeau autrefois, il avait 14 ans, elle 10 ans. Et sa mère faisait du repassage dans la riche maison des Principeaux. Mais est-ce que son souvenir est exact ? Est-ce qu'elle est la seule à éprouver un trouble qu'on voit dès le début du roman ? Arnaud.
C'est juste un très grand livre. C'est une véritable vengeance de la part de...
Vous êtes content de mon programme de début d'année, en gros, là, pour l'instant?
Oui, pour l'instant, ça va. C'est une vengeance de Marie Ndiaye, donc, dont on rappellera donc qu'elle est de père sénégalais. Et c'est un grand livre contre Bordeaux. Au bout d'un moment, on comprend ça. C'est un grand livre contre la ville de Négrier qui a été Bordeaux. Et il y a cette... bien sûr, à un moment, on comprend...
Non, mais il faut expliquer à nos auditeurs que Jean-Claude, au-dessus de son masque, lève les yeux.
Oui.
mais Jean-Claude du Sud-Ouest lève les yeux.
On est vraiment dans un lieu. C'est que, d'ailleurs, c'est l'esprit du lieu, là, qui est au centre du roman. Ça va d'ailleurs être la plaidoirie à la fin de cette avocate. Cette avocate, donc, qui est transfuge de classe. Tout le monde est un peu transfuge de classe dans cette histoire. Hein. Son meilleur ami aussi est un transfuge de classe. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent d'une condition modeste et qui se sont élevés à la fonction d'avocat dans cette ville extrêmement... Alors, Marie Ndiaye montre bien le séparatisme social à l'œuvre à Bordeaux, avec des quartiers de grands bourgeois où, justement, la mère repasseuse amène sa petite-fille, et c'est là où elle découvre la bourgeoisie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Là aussi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ce garçon qui est plus âgé? Ce n'est pas tout à fait clair. Mais ce qu'on comprend au bout
Tout le roman repose sur un trouble, hein.
Oui, non, mais surtout, il y a. Alors, tu parlais de Chabrol, mais c'est vraiment très chabrolien dans cette explication là de rapport de classe, de dominant dominé. Et au bout d'un moment, quand même, ce qui se joue, c'est quand on découvre que cette avocate est chargée de défendre quelqu'un qui veut changer de nom, car il estime que son nom fait partie d'une famille de négriers de Bordeaux. Et elle fait des recherches et elle ne trouve pas. Et il lui dit si, cherchez bien. Et donc il y a vraiment là, je crois, moi c'est comme ça que je l'ai lu. C'est une vengeance de Marie Ndiaye contre Bordeaux pour raconter ce qu'a été cette ville, son destin.
Je rappelle
de ville
que Marie Ndiaye et son mari écrivain, Jean-Yves Sandray, qui vivait à Berlin, se sont installés dans la région bordelaise depuis quelques années. Jean-Claude, pourquoi est-ce que tu n'étais pas d'accord avec Arnaud?
Mais non, parce que je trouve que c'est une interprétation qui est tirée pour des raisons... ça pourrait se passer absolument n'importe où. D'ailleurs, l'épisode dont tu parles, du changement de nom parce que héritier du négrier, ça se termine dans une impasse. Hein. C'est-à-dire que elle trouve pas. Finalement, elle trouve un nom qui pourrait être approchant. Donc le type veut absolument que ce soit un truc. C'est-à-dire, c'est au chausse-pied. Et d'une certaine façon, ce que je t'entends faire, ça ressemble à ça. C'est une critique au chausse-pied. Tu veux absolument que Bordeaux soit rattrapé par son passé négrier.
Mais,
et le livre, c'est comme
ça. On sent la bourgeoisie de cette ville.
Mais en plus, la description qu'elle fait de la bourgeoisie de Bordeaux, pour le coup, est très atténuée. Si elle voulait vraiment faire ça, elle aurait matière à le faire.
Mais non, c'est son talent, justement. Parce qu'elle fait tout de manière oblique. Il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas un roman psychologique. On voit bien qu'elle prend les choses toujours...
Mais tu passes à côté.
Elle est plutôt du côté de Nathalie Sarraute. Les personnages ne sont pas incarnés, ce sont des idées. C'est ça qui est magnifique dans le livre.
Tu passes à côté. Les trois lieux de ce roman ne sont précisément pas le centre de Bordeaux. C'est l'Ormont, où travaille l'employé de maison. C'est l'Aréole, où vivent ses parents. Et où vit Marie Ndiaye, au passage, et c'est Codéran où vit le fameux Principaux. Et quant au centre de Bordeaux, il se résume juste à sa Twingo qu'elle va mettre au parking près des Quinconces et la mère de Principaux qui est Place Péberlan. C'est tout. Voilà en quoi c'est réellement la description de Bordeaux. Si tu veux une description de Bordeaux de son passé négrier, attends quelques semaines. Anne-Marie Gara sort un livre là-dessus. Là, tu en auras pour ton argent. Mais et là, tu te tromperas pas.
Je pense que c'est.
Et là, tu te trompes.
Ça se passe en 2019. C'est assez clair. Hein. C'est ce moment où on a commencé à discuter est-ce qu'on va changer
Arnaud, tu connais pas l'histoire de Bordeaux, c'est pas depuis 2019, ça fait des années qu'à Bordeaux des associations font en sorte qu'en effet
tu vois bien que ça a pris
je voudrais qu'on termine sur Marie Ndiaye parce qu'on a encore d'autres livres à évoquer.
Moi sur Marie Ndiaye, ce que j'aime beaucoup ce livre, je lis absolument pas la même chose que toi parce que précisément on est au marge de ce qui pourrait être la description de la grosse bourgeoisie bordelaise et on n'y est pas et c'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est précisément le travail littéraire que fait Marie Ndiaye, comment elle installe un système de lente épouvante avec des personnages qui sont tous mystérieux, dont le mystère n'est jamais résolu.
Ce qui était le cas de la pièce Royant, monologue Royant.
Le mystère n'est jamais résolu et plus on avance dans le livre, plus le mystère s'accroît, s'obscurcit et on ne sait jamais vers où on va. Et d'ailleurs, la fin du roman, on n'a pas avancé.
On ne va même pas l'évoquer.
Non, mais on va l'évoquer.
Mais
on va pas l'évoquer. Mais je veux dire que même la fin du roman ne permet pas, n'ouvre pas la possibilité de comprendre le mystère de ça. Et je trouve qu'il y a un échafaudage psychologique, pour le coup, absolument extraordinaire. Vous parliez de la composition de Yasmina Reza. Moi, je dois dire que j'ai été très impressionné par la composition, comme ça, avec ce halo d'étrangeté, de mystère permanent, de brouillard. Si tu voulais dire quelque chose de Bordeaux, oui, sur les brouillards nés de la Garonne et qui enveloppent cette ville, qui l'enveloppaient, mais c'est fini maintenant. Mais il y a eu une grande époque où Bordeaux était enveloppé de brouillard. Alors oui, ce livre-là, d'une certaine façon, parle de Bordeaux. Mais à mon avis, tu te trompes, hein, vraiment.
Frédéric, est-ce que tu t'es réconcilié après Royan avec Marine Diaye?
Pas vraiment. L'abonné mensuel,
c'est un problème,
du masque.
Hein,
c'est vrai qu'elle est au programme tous les mois. Alors il y a eu Royan, il y a eu Bordeaux. Peut-être le mois prochain, ce sera La Rochelle ou Nantes, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est un peu comme Royan. C'est une toile d'araignée, quoi. Elle tisse des toiles d'araignée. On peut trouver ça vraiment virtuose, c'est vrai. Alors l'avocate, elle est enfermée dans ses pensées et nous enfermés dans l'avocate.
Et dans son passé.
Oui.
Ses pensées et son passé.
La question, c'est est-ce qu'on a envie d'être dans la tête de cette avocate bordelaise et qui, d'ailleurs, on ne sait pas si elle est folle, mythomane ou lucide ou si on s'en fout. Et c'est un peu le problème, parce que voilà, il y a une sorte de virtuosité un peu gratuite là-dedans. Si jamais on n'est pas passionné, alors par moments, oui, ça pourrait être du Faulkner, et puis à d'autres, ça pourrait être un téléfilm de TF1, parce qu'il y a beaucoup de téléfilms avec des avocates en ce moment.
C'est du Mauriac. C'est du Mauriac.
Oui, Mauriac, voilà, très bien. Mais Mauriac, je préfère le journaliste au romancier. Et bon, elle voilà.
C'est donc encore faut une aimer, autre émission. C'est encore ce une autre émission.
Quand c'était aux éditions de Minuit, cette construction savante et froide avait peut-être plus sa place que dans la NRF.
Olivia.
Ah, mais moi, je trouve ça remarquable. Hein, et j'ai peine à comprendre ce que tu veux dire, parce que...
Moi, j'ai peine à comprendre le livre, c'est ça.
Mais pourtant, il est quand même très clair. C'est un roman, effectivement, d'une inquiétante étrangeté, mais pour moi, et c'est là où je rejoins d'une certaine façon Arnaud, c'est un roman sur le prix à payer quand on s'affranchit de sa condition sociale et de son milieu. Et ce prix à payer pour cette femme
c'est
est extrêmement cher.
C'est aussi le côté chabrolien du livre. Hein.
Pardon ?
C'est aussi le côté chabrolien du livre.
Ah ben, bien sûr. Parce que cette femme, elle n'a même pas de prénom. Il y a son initiale, mais elle est réduite à n'être que l'avocate qu'elle est devenue. C'est épouvantable. Elle porte un amour fou à ses parents, mais cet amour est si douloureux que devant eux, elle ne peut se permettre de montrer quoi que ce soit. Elle doit être l'avocate qui a réussi. Je trouve que c'est un grand livre sur l'enfermement des femmes, elle réduite à sa réussite. Et l'autre femme du livre, qui est quand même un personnage extraordinaire, vous n'en parlez pas, mais Marlène Principeau, elle a tué ses 3 enfants. Pourquoi ? Parce que elle aussi, elle s'était échappée de sa condition, elle était devenue professeure, mais après, elle n'est devenue qu'une sorte de mère de famille de compétition internationale, et elle a fini par les tuer tous les 3, les noyer dans
là,
la baignoire.
Vous avez tous les 3 lu un autre livre, c'est
ah
ça
non,
qui est intéressant.
Mais moi, je trouve que c'est un roman absolument extraordinaire, avec un point d'interrogation, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre ? Et elle emploie, parce que chaque mot est pesé, le mot ravi.
Et oui, qu'est-ce qui s'est passé dans ces gens qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville ?
Est-ce qu'elle a été ravie au sens du ravissement ? Est-ce qu'elle a été ravie au sens du rapt ?
On ne répondra pas.
Répondra évidemment pas. Moi, je trouve
sous un des plus beaux titres pour moi de la rentrée, qui est La vengeance m'appartient.
Et la scène pivot, cette scène dont tu parles, la façon dont elle décrit ça, la froideur, la méthode.
Ce livre est extraordinaire.
C'est donc La vengeance m'appartient, c'est signé Marine Diaye, l'auteur, je vous le rappelle, de 3 femmes puissantes. Je le dis parce que depuis, Femme puissante est devenue quasiment, tout le monde reprend à son compte. Je rappelle quand même que c'est elle qui l'a créé, inventé. Et c'est donc Marine Diaye, et c'est chez Gallimard.
Et la femme de ménage, on n'a pas parlé du
Les yeux de Milos, le nouveau...
Femme de ménage vient de
s'il vous plaît.
De Ville Maurice.
Les yeux de Milos, oui absolument. Le nouveau et 27e roman du désormais académicien français, Patrick Grainville, Au seuil, un roman flamboyant, c'est le cas de le dire, dans le héros. Milos est apprenti paléontologue, il vit à Antibes, et beaucoup, il faut dire, au musée Picasso. Du château Grimaldi face à la mer, Antibes ou Picasso a connu l'extase avec François Gillot et où Nicolas de Staël s'est suicidé en se défenestrant. C'était, je ne sais plus l'année, mais en tout cas, il avait 41 ans, donc il était tout jeune. Ces deux destins opposés fascinent Milos, dont les yeux bleus, là je cite Grinville, le bleu de la beauté absolue et de la folie, ont comme envoûté la blonde Marine et qui va courir après le bonheur d'Antibes à Paris jusqu'à la Nabibie, un roman où on croise beaucoup de monde, hein, et du beau monde, Paul-Éloire, Limiller, Doramar, Maneret, bref, deux ans après Falaise des Fous, où il réinventait la geste de l'impressionnisme en Normandie, Grinville s'installe donc plein sud dans le midi de la peinture moderne. Jean-Claude, est-ce que tu as été attiré par ce
Ah mais moi j'adore.
Ce Grinville-là.
Moi j'adore. Je trouve juste un tout petit peu en dessous de Falaise des Fous, mais j'adore vraiment. C'est ce livre, c'est 50 nuances de bleu. C'est-à-dire, c'est le bleu absolument irradiant de Milos, c'est la Côte d'Azur, c'est la Méditerranée, c'est le bleu de Nicolas de Staël. Et puis, c'est toujours chez... et pour le coup, il ne s'agit pas en vieillissant, c'est toujours cette littérature du désir impérieux, du désir brûlant, de la tous ces parfums, cette tension, la libération, la sensualité du style.
Et puis, une écriture qui, depuis 27 ans, n'en finit pas de proliférer.
Oui. Et puis, ce que j'aime, par exemple, c'est il utilise le même délire orgiaque pour décrire les tableaux. Et Dieu sait si ces descriptions de tableaux sont magnifiques et justes dans leur folie descriptive. Et c'est le même registre que pour parler de l'amour physique, pour parler de la passion. Moi, j'adore ces échappées délirantes. D'un seul coup, il part comme ça. C'est des envolées lyriques au fil de la plume. Et tout le rythme du livre est produit précisément par ces allitérations et les hallucinations de Grinville. Et ça constitue quelque chose de très, très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que le pivot du livre, là encore, c'est l'été 37. C'est-à-dire ce moment où tous les copains de Picasso, à la demande de Picasso, vont venir là. Été 37, qui est l'été qui suit l'exécution du tableau Guernica, qui est un des moments les plus terribles de la guerre d'Espagne, où il va se réfugier, lui, à Mougins. Il fait venir tous ses potes, Éluard et Neusch, Doramar, évidemment, vit avec lui, Maneret et Audi, et puis, évidemment, Limiller. Et comment cet été-là va être un été de fusion entre eux, mais aussi de première rupture. Je trouve aussi que la façon dont il décrit le travail de l'abbé Breuil, le découvreur, enfin l'interprète de Lascaux, tout son travail sur la préhistoire est d'une précision. Enfin, je trouve ça absolument formidable. Il y a, par exemple, chez Grinville, un art extraordinaire. La façon dont il décrit en une demi-page l'Hispano-Suiza de Picasso, mais c'est prodigieux.
Voilà. Finalement, le sud et le soleil lui vont bien à Grinville, Frédéric.
C'est un graphomane lyrique, un styliste baroque, et son entrée à l'académie est quelque chose d'assez étonnant et d'assez inactuel, parce que c'est la tendance est plutôt au minimalisme et au réalisme aujourd'hui, et lui, il est complètement délirant. Alors, le défaut, à mon avis, du livre, c'est vrai que tout ce qu'a dit Jean-Claude est vrai, c'est-à-dire que c'est un livre sur Milos qui hésite entre le soleil et la nuit, entre jouir et mourir, entre Picasso et De Staël, entre Marine et Samantha aussi, parce que c'est quand même un roman très érotique où il y a beaucoup beaucoup de scènes réussies de sexe, c'est pas facile à écrire. Malgré tout, en page 30, on a compris le projet, et ensuite il reste 300 pages. Alors là, on répète quand même toujours le même canevas, les yeux de Milos qui hésite entre le soleil et la nuit, etc. Et il faut vraiment beaucoup de talent pour faire tenir uniquement sur l'érudition et sur le choix lexical de plus en plus recherché, élaboré et sur des descriptions. Voilà, parce que c'est très, pour le coup, alors là, musique répétitive.
Sur l'antagonisme, Picasso-Nicolas de Staël, c'est tout à fait passionnant.
Oui,
sur
bien sûr, c'est la vie, la force, le minotaure face au suicidé.
C'est d'accord. Très bien mené, ça, parce que c'est à peu près dans le même lieu. Et c'est, le contrepoint est absolument entre le minotaure, destructeur de femmes, prédateur.
C'est dit dans les 30 premières pages.
Oui, non, d'accord.
Après, tu vois que ça.
Moi, je me suis pas du tout.
C'est comme
traverser ça avec un grand plaisir.
Mais c'est toujours un peu la technique de Grinville, hein. C'est-à-dire que ces romans, qui sont toujours, encore une fois, assez longs, assez foisonnants.
C'est comme un peu du jazz, si vous voulez, parce que on parlait de la construction très, très élaborée chez Reza et chez Ndiaye. Là, c'est peut-être le défaut du livre, c'est tout. C'est peut-être la construction qui fait défaut.
Olivia?
Oui, je suis d'accord avec Frédéric. Et en même temps, j'ai tellement de gratitude pour ce livre où tout d'un coup, après cette année mortuaire, il raconte tellement bien le bleu de la Méditerranée, la lumière d'Antibes, les pins parasols, que tout d'un coup, tu as l'impression de revivre.
Mais il y a le short de Samantha aussi.
Le short de Samantha. Je dois dire que les scènes de sexe sont vraiment très très belles, et c'est tellement rare de les lire de manière réussie.
Enfin, chez Grinville, c'est vrai depuis son premier roman.
Mais alors moi, je ne suis pas une très grande lectrice de Grinville. Ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est dans cette opposition entre le Minotaure et le Foudroyé, c'est la manière quand même dont il ressuscite Nicolas de Staël avant la mélancolie. Moi, j'ai adoré ces passages où il décrit son rire tonitruant, ses mains de forgeron, ce géant. Il y a même une scène où il se rencontre à Paris en 1944, pendant l'occupation. Et il y a d'un côté Picasso, le nain, tout d'un coup, et de l'autre, le sublime Nicolas de Staël. Et Picasso lui dit « Prenez-moi dans vos bras, cette scène est complètement folle. » Et puis, il arrive à faire ce que personne n'arrive, c'est-à-dire à décrire de manière fabuleuse les rêves. Les trois dernières pages, qui sont un rêve, c'est juste génial.
Arnaud ?
Ben ça m'a rappelé, lorsque j'étais adolescent, j'allais dans la bibliothèque paternelle chercher les Grinville, parce que je savais qu'il y avait des passages de cul, et je crois que c'est un des meilleurs écrivains de cul français. Oui. Ça, c'est,
y a, et d'ailleurs, et là, dans les Flamboyants, il y en a beaucoup.
Oui, et moi, je sautais tout le reste, en fait, quand j'étais ado, ça, j'allais directement.
La Diane Rousse aussi.
Et, ça revient souvent. Hein.
Là, j'ai aussi un peu tendance. Des fois, je me dis, tiens, là, je vais sauter le passage sur Picasso, puis je vais aller directement à la scène de sexe avec Samantha, qui est vraiment bien chaude. Il y a un côté priapique chez Grinville. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la figure de Picasso lui plaît autant. Hein, c'est parce que, évidemment, c'est priapisme contre priapisme.
Je pense que c'est le plus priapique de l'Académie française aujourd'hui.
Ah oui, sans problème.
Sans difficulté.
Ouais, il est encore très vert, là, pour le coup. Il y a quelque chose de... je veux dire, ce personnage de Milos avec ses yeux bleus qui transpercent le cœur des femmes au point qu'elles aient envie de l'aveugler. Il y a ce côté, une espèce de bleu d'Iproie, on pourrait dire. C'est quand même un personnage absolument fabuleux. C'est du Solers aussi. Hein. Moi, ça me fait beaucoup penser à Solers dans cette manière de comment dire.
Pour l'écriture, c'est le contraire de Solers. Exactement, le contraire. Pour l'écriture.
Tellement exubérante.
Oui, mais disons qu'il y a la même faculté d'articulation entre roman et essai, en fait, parce que c'est aussi un essai sur Picasso, sur la peinture. Il y a un écrire-peindre chez Grinville qui est quand même très proche de celui de Solers, à mon avis.
Les yeux de Milos, c'est donc Patrick Grinville et c'est au seuil. Et on termine avec l'architecture chez Fayard, le deuxième roman de Marien de Falvar. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, je parle aux auditeurs du masque, mais en 2011, ce jeune homme, âgé alors de 19 ans, avait fait sensation avec son premier livre, Du temps qu'on existait, couronné, n'est-ce pas, Frédéric et Arnaud, à l'époque par le prix de Flore. Un grand livre malade, ça, moi je m'en souviens, dont le héros misanthrope, néo-proustien, errait de ville en ville, avec l'espoir de retrouver les parfums, les couleurs du domaine familial. Donc 10 ans plus tard, on demande d'ailleurs ce qu'il a fait pendant ces 10 ans, hein. À part j'ai vu un recueil de poèmes.
Un recueil de poèmes magnifique.
Narthex. Hein. Narthex. Marien de Falvar publie donc un roman dont le personnage, une fois encore, revient dans la région où il a passé son enfance et sa jeunesse. C'est-à-dire Clermont-Ferrand, c'est un architecte chargé d'édifier un palais de justice, mais qui est rattrapé par sa seule passion, la littérature, puisque c'est une sorte de journal qui va tenir. Alors, dès la première phrase, évidemment, on est assez frappé, puisqu'il est question de littérature. Je vais vous la lire très vite. Hein. C'était un avenir incertain. Les nuages passaient comme des draps essorés sur l'anthracite du ciel, sur la harpe du ciel, et s'arrachaient sur un pommier, s'accrochaient et saignaient un peu sur la frise d'un pommier, sur un encadrement de fenêtre trop haut placé ou sur le nichoir tien. Les nuages passaient dans le réticule et venaient échouer sur l'angle haut de la fenêtre de la cuisine aux persiennes de métal roussi. Et la phrase n'est pas finie. Arnaud.
Bon, déjà, il faut dire, hein, on a affaire donc à un revenant. Hein. Il avait 19 ans lorsqu'il a publié son premier roman il y a 10 ans. Il en a donc 29 aujourd'hui. Il a donc publié un recueil de poèmes qui s'appelle Narthex aux éditions Exil il y a 2 ans, qui était exactement dans la suite de son premier roman. C'est-à-dire qu'il a une faculté à écrire une prose poétique avec, en étant très sensible à l'esprit du lieu. Moi, ce qui m'avait frappé avec ce premier roman, c'est qu'il décrivait plusieurs villes, mais notamment Tours, que je connais assez bien, et notamment l'avenue de Gramont, où je suis né, où j'ai grandi, et en quelques... quelques phrases. Attends, il y avait
aussi Strasbourg, il y avait Lyon.
Oui.
Je me souviens, il y avait pas mal de.
Donc c'est, là, c'est un livre sur. France, hein. Moi, quand j'avais lu la description de l'avenue Gramont, j'avais été frappé comme sa manière, la grâce avec laquelle.
C'est pour ça qu'il
la grâce
prix, politique en fait.
Avec laquelle il rendait. C'est pour ça que je m'étais battu pour qu'il ait le prix de Flore à l'époque. Mais, et aujourd'hui, donc, on revient dans cet esprit du lieu. C'est un roman sur une ville, comme le roman de Marie Ndiaye est un roman sur Bordeaux, j'y reviens. Le roman de Falvar est un roman sur Clermont-Ferrand. Alors vraiment, alors le problème, c'est que je connais pas Clermont-Ferrand. Ah. Je n'ai pas le tilt que j'ai pu avoir lorsqu'il parlait de Tours.
Mais tu ne connais pas Bordeaux non plus.
Il n'empêche, il y a quand même une capacité là à raconter une ville. Donc à deux époques là, la thèse très réactionnaire, très conservatrice de Marien de Falvar, c'est que Clermont-Ferrand, l'architecture de Clermont-Ferrand, l'architecture pascalienne, chrétienne de Clermont-Ferrand a été détruite par les socialo-bolcheviques, je le cite. Et donc il y a comme ça cette idée là que d'une destruction esthétique, comment on en est arrivé là, et est-ce que la littérature n'est pas en train de subir la même chose, et du coup lui surécrit justement pour éviter ce ravage esthétique.
Si tu permets, on peut quand même prévenir l'auditeur que ça n'est pas facile à lire.
Ah ben non, mais l'idée que les choses soient toujours faciles, justement, non, c'est juste, ça qui
c'était juste,
s'oppose.
C'était juste pour que les gens qui croient qu'ils vont avoir un roman de Zola sur Clermont-Ferrand, ça n'est pas vraiment le cas.
Non,
quoi.
Pas du tout.
Olivia.
Eh bien moi, je n'y arrive pas. Non pas à cause de la difficulté, mais j'ai l'impression d'être vieille, j'ai l'impression d'être Salieri devant Mozart. Il y a trop de mots.
Ah voilà.
Il y avait trop de notes. Là, il y a trop de mots. Et je n'arrive pas à savoir.
C'est beau de l'admettre.
Voilà, je suis vieille, je suis comme dans le livre de Yasmina Reza, je suis une héroïne de Yasmina Reza et ça me va très bien. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est une installation d'art contemporain auquel je ne comprends rien, ou si c'est de la littérature en robe de chambre, avec un gars avec une robe de chambre chamoirée, comme Marcel Proust, je ne sais pas. J'ai l'impression de devoir escalader une montagne avec des tongs et je reste totalement en dehors. Mais je ne voudrais surtout pas en dégoûter les autres parce que c'est peut-être moi.
Frédéric,
c'est très bien de citer Proust. Marien de Falvar, pour moi, c'est une énigme.
Oui, c'est un aérolithe.
Je ne sais pas s'il est surdoué, si c'est le plus grand génie du 21e siècle, ou si c'est un fou complet, illisible et imbattable. J'avoue que
là, devant... il est imbattable dans l'habitable. Hein. Ça,
c'est un phénomène de foire, tellement il écrit bien. C'est d'une richesse, d'une densité inouïe. C'est vraiment un talent unique. Et on se perd là-dedans, je suis tout à fait d'accord. On ne sait pas très bien où il va. Bon, apparemment, c'est à Clermont-Ferrand. Mais si vous voulez, cela dit, ça ne peut pas être un argument. Parce que si vous lisez Les Chants de Maldoror, c'est très difficile à lire aussi. Et Stéphane Mallarmé, c'est très hermétique. Donc voilà, on est face à un poème.
Je ne dis pas que c'est un argument, je dis juste qu'il faut prévenir quand même les
auditeurs.
Oui, mais
je crois qu'il faut prévenir les gens que c'est peut-être de l'art abstrait. C'est peut-être aussi... Moi, j'ai compris ça, c'est comme l'albatros de Baudelaire.
Et pourquoi on les préviendrait quand c'est difficile ou on les prévient jamais quand c'est trop facile, par exemple?
Oui, voilà, exactement. Oh,
bah,
oui.
On fait souvent.
Enfin, si on les prévient quand même.
Quand c'est trop facile, on est les premiers à le dire.
Bon, voilà, je trouve que c'est quelque chose. C'est un objet, un ovni, mais surdoué.
Jean-Claude.
Eh bien, moi, les amis, ça sera sans moi. Je vous le dis tout de suite, ça sera sans moi. Au début, j'ai cru que c'était une parodie, c'est-à-dire les premières pages dont tu parles, et j'étais pas insensible. Et après, je me suis dit, c'est une parodie. Et en fait, il faut toujours se méfier de la première impression. C'est la bonne. Alors, tu vois, tu parlais de monter une montagne avec des tongs. Moi, ça a été un mur de mots impossible à franchir. Je l'ai pris dans tous les sens, au milieu. J'ai tout essayé. Je n'y suis jamais arrivé. C'est même fascinant, tellement c'est illisible. Et ce qui est aussi fascinant, c'est l'entêtement, l'acharnement de cet auteur. Ça en devient tragique. Il y a un côté tragique chez lui. Allez, surtout, ça m'a fait penser à une distinction qu'établit Martin Amis, que je trouve très intéressante, sur ce qu'il appelle les romans satisfaits d'eux-mêmes, et qui ont une sorte d'amour de la surcharge, sans plus de structure, dit-il, qu'une soupe à alphabet. Et ben, c'est exactement l'impression que ça me donnait, cette sorte d'auto-contemplation d'un style parfaitement abscon. C'est un livre qui est écrasé par sa prétention, coulé par sa posture, avec un style qui se hausse du col jusqu'au ridicule, d'ailleurs dès la première phrase. Pour moi, il n'en reste rien, si ce n'est une impression déplaisante. Et je voudrais dire que sur Clermont-Ferrand, si vous voulez dire quelque chose qui ait du sens et qui parle vraiment de la ville, je vous renvoie au texte de François Talandier dans la dernière livraison de la revue Zadig d'Éric Futorino. Et il y a un très beau texte sur Clermont-Ferrand.
Donc ce texte du mystérieux Marien de Falvar, c'est l'architecture et c'est chez Fayard, un conseil pour terminer cette première émission littéraire de l'année, Olivia.
Un premier roman américain, Un bref instant de splendeur, de Ocean Vuong. C'est chez Gallimard. L'auteur, il est né en 88 à Saigon. Il est arrivé à 2 ans aux États-Unis. Et il écrit une très longue lettre à sa mère, qu'elle ne pourra jamais lire parce qu'elle est analphabète. Elle travaille dans un salon de manucure. C'est un livre sur, évidemment, le déracinement. C'est un livre très violent. C'est un livre d'amour. C'est la plus belle langue que j'ai lue depuis très, très longtemps. Il faut saluer la traductrice qui s'appelle Marguerite Capelle. C'est un choc, mais lisez-le, les amis. C'est d'une beauté folle.
Tu redonnes l'éditeur ?
Gallimard, un bref instant de splendeur. Rien que son nom est poétique, il s'appelle Océan. Ocean Vuong.
Le conseil d'Arnaud.
Alors, l'année dernière, j'avais commencé l'année en vous conseillant un livre qui s'appelle « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne » de Mika Birman.
Ah oui, voilà. Très bien.
Aux éditions...
Texte court, d'ailleurs.
Anacharsis, oui, 90
génial,
pages, une novella. Ouais. Et donc, Mika Birman, qui est donc un Allemand, mais qui écrit en français, qui a été peintre, et donc voilà, il écrit très très bien sur la peinture, donc « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne ». Eh bien, il fait la suite, si on peut dire, et c'est « Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot », la belle-sœur d'Edouard Manet. Trois nuits qui vont être très agitées, très sexuelles, en l'occurrence. Ça fait encore 90 pages. C'est magnifique sur le thème de la peinture, et je n'ai jamais vu un écrivain, peut-être parce qu'il est allemand, je ne sais pas, écrire un français d'une telle limpidité, d'une telle beauté, d'une telle force. Vraiment, pour moi, c'est un des plus grands stylistes du moment.
Je suis d'accord avec toi.
Mika Birman, ouais. Donc c'est aux éditions Anacharsis, c'est des éditions de Toulouse qui ont choisi un nom. Il y a vraiment des gens qui cherchent les emmerdes, mais enfin bon. Voilà.
Mon conseil, c'est, en ce qui me concerne, la meilleure nouvelle de ce début d'année. C'est la sortie chez José Corti d'un recueil de textes inédits de Julien Gracq, qui s'appelle « Nœuds de vie », de purs morceaux de littérature sur la campagne, autour de Saint-Florent-le-Vieil, autour de son balcon sur la Loire, sur ses lectures, sur l'écriture, sur la vieillesse, on y revient, et sur son propre désabusement, et avec... un humour dont il était, contrairement à ce qu'on dit, capable. Moi, j'ai retrouvé l'homme que j'allais souvent visiter à Saint-Florent. Et voilà cette phrase, par exemple. « Je prends rang professionnellement parmi les survivances folkloriques qu'on signale aux étrangers auprès du pain poilane et des jambons fumés chez l'habitant. » Voilà, un régal de fameuse, comme disait ma grand-mère. C'est « Nœuds de vie » de Julien Gracq, totalement inédit. Et mais c'est José Corti.
Ils les ont retrouvés où, ces inédits?
C'était parce qu'il y a des carnets qui ne paraîtront, il y en a 29 même, qui ne paraîtront qu'en 2027, 20 ans après sa mort, parce qu'il y a souvent des attaques contre ses contemporains, et donc il a souhaité que ça ne paraisse que tardivement. Ouais. Mais on a retrouvé à la BNF plutôt, des carnets qui, eux, n'étaient pas frappés par cet interdit, et donc ils paraissent ces jours-ci. C'est un petit livre, vous allez vous régaler. Frédéric.
Eh bien, moi, c'est un premier roman, publié chez Gallimard, « La trajectoire de l'aigle » de Nolwenn Le Blévenec, et c'est un roman d'amour, une journaliste qui vit avec un homme de 20 ans de plus, ça c'est très bien, mais qui le trompe avec un garçon de son âge, c'est moins bien.
Aussi.
Et c'est une histoire de passion. Et ce que je cherche, moi, dans les premiers romans, c'est quand il y a un ton, c'est quand il y a des phrases, des formules et du cynisme et du romantisme à la fois. Et là, c'est très, très réussi. La trajectoire de l'aigle de Nolwenn Le Blévenec.
Premier roman chez Gallimard, le conseil de Jean-Claude.
Un premier roman aussi, aux dilettantes, un livre de Grégoire Domenac qui s'appelle « Entre la source et l'estuaire ». C'est une histoire d'écluse et de péniche sur la rivière du Doubs. Une histoire d'amitié un petit peu tordue, de passion, d'un truc à trois, et puis un peu diabolique, et puis ça tourne mal, voilà. Et c'est l'évocation douloureuse de cette passion, et d'un fait divers, d'un village entre deux écluses. C'est très simnonien, c'est très joliment fait. Pour le coup, ça se prend pas au sérieux, ça fait pas le malin, ça fait pas le pied au mur pour épater le chaland. Voilà, c'est un beau premier roman, insolite et mélancolique, Grégoire Domenac, « Entre la source et l'estuaire » aux dilettantes.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Frédéric Becbédé, Jean-Claude Raspienjas, auxquels je souhaite une belle, une douce, une grande année. Cette émission était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir au théâtre de l'Alliance française à la technique. Et je les remercie, il y avait les excellents Cédric Chatelus, et Charles Bouticourt. La réalisation étant signée par l'excellent Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parle de cinéma. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.